Marie Webb, Le précieux fléau, livre 3, chapitre 1, La foire de l'embauche. Le jour du 1er mai, il y avait beaucoup de choses à emporter pour le marché. J'avais de nouveau emprunté le poney au moulin et m'étais levé tout comme Gédéon très tôt, alors que baignaient encore dans une grisaille floue les grappes violettes et les feuilles vertes du lilas. La veille, j'en avais cueilli quelques branches pour le marché, si bien que nous chevauchions enveloppés de sa splendeur et de son parfum. Ce fut un matin d'un calme profond. Pas un souffle ne remuait les jeunes feuilles rouges du chêne, et les bouleaux argentés eux-mêmes, qui ondulent et tremblent à la moindre brise, restaient immobiles, comme l'étaient, tout en bas, les joncs dans l'eau calme et sans rides. En dehors des sabots de nos montures sur la route caillouteuse et humide, on ne percevait aucun son, venant de quelque côté que ce fût, des champs gris, de l'eau, des forêts ou du ciel. Quel calme! J'avais l'impression qu'en pareil jour, un miracle pouvait se produire. L'aube n'aurait pas pu retenir son souffle plus intensément pour l'arrivée du jour du jugement et de la résurrection des morts. Quand les haies reprirent leur couleur, on pouvait y voir en abondance des pervenches, dont le bleu simple et frais semblait nous suivre, et l'on aurait dit les yeux bleus tranquilles et innocents de milliers d'enfants qui nous regardaient passer sous les aunes, qui parsemaient la route mouillée de jatons jaunes. Au loin, sous un ciel sans le moindre nuage, les collines étincelaient comme recouvertes de pierres de saphir, et faisait penser à la nouvelle Jérusalem. Pas un oiseau, pas une traînée de brume ou de fumée n'effleurait la plaine. En chevauchant sans un mot à côté de Gédéon, que la pensée de Béguédé continuait d'assombrir et de mettre de mauvaise humeur, je me disais que tout cela était comme un grand livre ouvert, avec de belles pages à la portée de tout le monde. L'écriture en était seulement un peu mystérieuse, comme celle de certains livres de Béguindi, qui ne prenaient pas la peine de les mettre sous clé, sachant qu'on ne pourrait les déchiffrer. Car évidemment, tout arbre, ou buisson, ou fleurette, ou brin de mousse, la moindre herbe douce ou amère, tout oiseau, traçant sa voie dans le ciel, de même que tout ver de terre, creusant la sienne sous le sol, et tout animal cheminant lourdement à sa tâche du jour, tout, restait pour nous une énigme insondable. On ne savait rien de ce qui les animait. Et cet immense univers qui semblait immobile ne l'était pas plus qu'une toupie qui le paraît pourtant, justement, quand elle va à toute vitesse. Mais comment cet univers tournait? Et ce que nous et toutes les créatures faisions dans ce tourbillon vertigineux, c'est ce que nous ne savions pas. C'est comme un livre, dis-je à Gédéon.
Un livre, répondit-il. Bah, je vois pas de livre. Je vois plutôt une bonne quantité de terre qui est gâchée alors qu'elle pourrait être en blé.
Ainsi, ce que nous discernons de l'écriture de Dieu, c'est ce que notre esprit incline à voir, rien de plus. Nous passâmes sous un poirier sauvage déjà en pleine floraison, ce qui me fit penser à Genesis. « Je me demande bien, dis-je à Gédéon, où Genesis dormira cette nuit. »«
Chez les Grimble. » »«
Comment tu peux dire ça ?»«
Je peux le dire parce que je le sais. Madame Grimble change constamment de femme de laiterie. Et j'ai entendu dire qu'elle en recherchait une cette année encore. »«
C'est vraiment loin de chez nous, Gédéon. » »«
C'est pas le plus grave. Au moins, elle sera hors du chemin de Camperdine. »
Elle se sentira très seule, Gédéon.
Tu pourras lui écrire une lettre pour moi de temps en temps.
Oh, bien sûr. Mais comment elle fera pour répondre?
J'ai pensé à ça.
Et Gédéon lança triomphalement.
La ferme est si importante que le tisserand y passe tous les mois ou tous les deux mois. Le tisserand pourra écrire pour Genesis.
Qui? Dis-je le souffle coupé à l'idée de prononcer ce nom. Qui donc? « Monsieur Woodsiffs ?»«
Qui d'autre ?»«
Oh, bonté divine! Voilà que le hasard me jouait un tour bien étrange. Il me faudrait écrire des lettres d'amour que celui que j'aime aurait à lire, et il lui serait demandé des réponses que je dirais toutes les quelques semaines. Je laissai le poney reprendre son rythme, et je passai derrière Gédéon, car le poney du moulin était comme les gens du moulin. Il prenait les choses avec tristesse et lassitude, et se décourageait pour un rien. Ainsi donc, dès cet été, il viendrait du courrier écrit de sa propre main, et dont les mots et les tournures seraient de lui. Sa main, tout au long des pages, ferait minutieusement tous ses mouvements pour dessiner des lettres sur lesquelles ses yeux bleus allongés, qui savaient percer le cœur à jour, se seraient appliqués. Évidemment, les messages seraient de quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre. Et ce serait bien compliqué, puisque le sien viendrait de la part de Jancis pour Gédéon, et le mien de la part de Gédéon pour Jancis. Tout serait dit de façon déformée, contournée, renversée, comme les ombres des nénuphars sur l'étang, alors que j'aurais préféré une façon simple et spontanée. Cependant, même ainsi, mon cœur pourrait s'épancher. Je pourrais dire les choses que je croyais ne pouvoir dire jamais. Je pourrais mettre mon âme à nu devant lui, tout comme mon corps l'avait été pour les yeux de celui qui, seul, lirait mes lettres. Non que mon âme ait quelque chose à dévoiler, mais malgré tout, je désirais vivement la lui montrer. C'est là une bien curieuse envie qui se rencontre pourtant chez tous les amoureux. Je ne pus m'empêcher de rire à la pensée de l'impression ridicule que pourrait donner Gédéon, vu à travers mon âme. Et comme Jancis pourrait être décontenancé, à l'écoute des expressions que ni ange ni démon n'auraient jamais pu lui faire écrire, et comme elle froncerait les sourcils, se demandant si le tisserand ne se moquait pas d'elle, pour finalement se convaincre que, décidément, les gens ne sont pas vraiment eux-mêmes quand ils écrivent. J'étais en train de rire quand j'entendis Gédéon crier. « Oh là ! Où tu vas donc ? Le poney est à deux doigts du fossé, il va se casser la patte et perdu sur le marché, les œufs de ton panier vont faire de même. Mais qu'est-ce que t'as à rêvasser ?» Il était juste temps. Le poney et moi, nous nous dégageâmes comme nous pûmes du fossé et poursuivîmes un peu embarrassés et avec plus d'attention. Et là me vint soudain l'idée que, dans ce courrier, c'était dans le cœur de Kestor Utsiv, aussi ouvert que peut l'être un grand ciel, que je lirais. Je pourrais le connaître comme si je vivais à ses côtés, car ce ne sont pas les choses dites qui révèlent une personne, mais les mots qu'elle choisit pour les dire. De même, une robe vous tient chaud, non pas tant par la longueur de l'étoffe utilisée que par la qualité de celle-ci. Dans tout ce qui aurait à écrire, je le découvrirais, car on ne peut écrire une seule ligne sans se révéler. Il y a le choix du mot, la forme des lettres, l'écriture large ou serrée, sobre ou enjolivée. Ce sera une sorte de jeu d'espionnage pour moi, et il lui sera impossible de se cacher. Je m'imaginais déjà comme Monsieur Woodseeves, rentrant chez lui, content du service qu'il avait rendu, serait enfin satisfait d'ouvrir sa porte, d'allumer son feu et de se retrouver seul avec lui-même. Et pendant tout ce temps, il se serait laissé voir par moi, m'aurait introduit dans la maison de son esprit, m'aurait prié de m'asseoir auprès du feu de sa grande bonté. Il m'emmena jusqu'à sa belle demeure, dit le texte. Sa bannière, c'était l'amour.
Prou ! Cria Gédéon. Mais quelle fille, quelle fille! Le poney marche sur les rênes et mange l'herbe. Et tu m'as obligé à rebrousser chemin d'une demi-lieue, alors que c'est jour de marché. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade ou quoi? On pourrait croire que t'es amoureuse.
Après cela, le poney et moi fûmes des plus attentifs. Nous fixâmes nos pensées sur la route et le marché. Et comme on finit toujours par arriver avec du temps, nous atteignîmes Lollingford. Et fûmes à la foire d'embauche alors qu'elle commençait à peine. La longue rangée de jeunes personnes et de moins jeunes qui étaient là pour être louées commençait tout près de notre stand. Chacun portait le signe de son état.
Une cuisinière avait une grande cuillère en bois, et si deux jeunes gars l'ennuyaient par trop, elle leur en mettait un coup sur la tête. Les meneurs de bœufs avaient des fouets, les cantonniers une serpe, les jardiniers une bêche, les vachers portaient un pot à lait en étain, ceux qui réparaient les toits, une botte de paille. Un forgeron exhibait un fer à cheval sur son chapeau, et il y en avait à peine deux ou trois parce que plusieurs fermes se mettaient ensemble pour en louer un seul à l'année. Les bergers avaient leurs bâtons, les huissiers une lanterne pour montrer qu'ils savaient poursuivre les voleurs jusque tard dans la nuit. Bien que, disait Gédéon, avoir une lanterne n'était pas l'assurance que l'homme ferait plus que sortir son nez de ses vêtements de nuit quand viendrait le soir. De même qu'être d'accord le dimanche avec le verset « Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin » n'est pas l'assurance qu'on ne passera pas son temps le reste de la semaine à le transgresser. Ce que précisément Gédéon faisait lui-même. Il y avait des tailleurs et des tisserands, ceux qui gardaient la laine et des cordonniers pour lesquels les fermiers s'associaient aussi, afin d'en louer un pour plusieurs. Les cardeurs avaient un écheveau de laine de couleur, et les tailleurs s'amusaient à courir le long de la rangée de jeunes filles, les menaçant de vouloir couper court leurs jupons. Jensis riait comme les autres, mais je voyais bien qu'elle avait pleuré. Elle ressemblait à un tableau dans sa robe imprimée et son petit bonnet, avec son tabouret de traite. Il y avait plusieurs jeunes femmes, les ménagères avec leur balai sur l'épaule, les lavandières avec leur chariot. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que plus d'un jeune fermier, ne cherchant ni cuisinière ni femme de laiterie, ait eu envie de flâner par là, et qu'il finissait par se rendre compte que ce qu'il désirait, en fait, c'était une épouse. « Voilà Grimbald, » dit Gédéon. « J'étais sûr qu'il viendrait à cause du combat de taureaux. Il vient juste d'acquérir un nouveau chien, qu'on dit aussi ardent que le feu. » Il y avait presque à chaque fois un combat de taureaux après la foire de mai, et c'était une chose que je ne pouvais supporter. Je regardai l'endroit qu'indiquait Gédéon et vis M. Grimbald, un homme dont le nez long avait l'air de se fourrer dans les affaires d'autrui et de leur amener des ennuis. « Et à côté, c'est sa femme ?» demandai-je. Gédéon regarda celle qui l'accompagnait. Elle ressemblait à une poupée en pain d'épices plate et pâle par manque de cuisson, avec des yeux en raisin de Corinthe. Et il acquiesça. « Pingre et autoritaire, » dis-je. « Bah, Jensis a bien besoin d'être menée. Les plus jolies sont toujours les plus paresseuses. Et pour ce qui est de pas manger à sa faim, elle a l'habitude chez elle. Elle saura se débrouiller pour pas être trop affamée. » Il n'avait pas l'air de s'en faire pour elle. Elle aurait été mieux et de beaucoup dans une petite ferme avec de bonnes gens qui l'auraient traitée gentiment, dis-je. Pourquoi donc tu veux qu'elle aille chez les Grimble? Plus d'argent. Ils donnent de meilleurs gages que les petites gens. On doit penser à ça d'abord. Le fléau, murmurai-je, le précieux fléau. Parce que vraiment ce discours sur l'argent commençait à m'envahir, comme un refrain chanté sans cesse, et cette rengaine je l'avais en aversion. Gédéon avait parlé de Jensis au fermier Grimble, et comme elle n'osait jamais aller contre ses avis, elle dit à Begiddy, « La femme du monsieur Grimble peut me louer si tu es d'accord, père. » « Oh, c'est d'accord, » dit Begiddy. « Et combien vous me donnerez pour la fille durant 3 ans ?»« 18 livres. »« Allez jusqu'à 20 et vous pouvez la prendre. » »« Non, non, c'est trop. »« Elle sait travailler quand elle veut. »« Et elle est forte. »« Et si vous donnez 20 livres, je vous permets de la secouer si elle ne se laisse pas mener. »« Si vous levez un doigt sur elle, vous passerez un mauvais quart d'heure, » répliqua Gédéon. « Et c'est elle qui aura l'argent, pas vous, Begiddy. » Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça, a-t-on jamais entendu pareille chose? Un type né sous la planète de 4 sous, qui dort sur le ventre et qui va finir noyé. Gédéon fut pris d'une soudaine rage et lui envoya une gifle bien sentie et Begiddy hurla. Je te le rendrai, je te rendrai ça, sois maudit, tu es vraiment le fils de ton père. Tu me dois une couronne, qui me dit, alors que mort, il m'a effleuré dans un tourbillon d'air. Et toi, tu peux pas me laisser tranquille? Sois maudit quand tu sèmeras ou récolteras, quand tu seras au champ ou à la maison, par le feu et l'eau. Un homme de cire, je ferai un homme de cire cette nuit et l'appellerai Sarne, et tout doucement il se consumera, Sarne, mangeur de péché.
Gédéon le regardait sans réaction. Les gens se reculèrent un peu, sans vraiment savoir ce qu'ils craignaient. C'est à ce moment que, fendant la foule, arriva le jeune châtelain, le neveu de M. Camperdine.
« J'ai entendu dire, commença-t-il s'adressant à Béguédé, que Vénus est venue à la foire pour être louée. Ma tante voudrait une femme de ménage supplémentaire, et je venais voir si Vénus... »«
Si vous voulez parler de Jancis Béguédé, monsieur, » se mit à dire rapidement Gédéon, « elle est déjà prise comme apprentie. »«
Quoi ? Si vite ?»«
Oui, chez un fermier qui habite très loin d'ici. » Il regarda âprement M. Camperdine qui lui rendit un regard tout aussi dur.
« Ce sera une grande déception pour ma bonne tante, » répondit M. Camperdine.
« Madame votre tante, » répliqua sèchement Gédéon, « aura vite fait d'en trouver une autre. Elle garde jamais bien longtemps son personnel, si je puis me permettre cette hardiesse à propos de votre tante, monsieur. »
Le jeune châtelain fronça les sourcils, mais jetant un regard circulaire et ne voyant que Jancis, laquelle était petite et potelée, il supposa que celle qu'il cherchait était déjà partie, et qu'il était inutile de perdre son temps à discuter. Il soupira, se disant à lui-même « Voilà que Vénus s'est évaporée », puis il partit, et je fus contente de ne plus le voir.
Béguédé et Jancis allèrent à l'auberge avec les Grimble pour signer l'acte d'apprentissage qui liait Jancis pour 3 ans. Elle devait repartir avec eux le soir même. Mais d'ici là, elle était libre. Et Gédéon lui dit que puisqu'elle aurait pu travailler pour la nouvelle maison de Lullingford, elle pouvait tout aussi bien y jeter un coup d'œil. Ainsi, ils y allèrent, tandis que je m'occupais de notre étal. J'eus rapidement terminé. Comme il y avait plus de monde que les jours de marché ordinaires, tout se vendit très vite. La rangée de jeunes personnes en attente s'était rétrécie, et il n'en restait qu'un petit nombre que personne ne voulait. Il s'agissait de ceux dont on savait qu'ils étaient soit portés sur la bouteille, soit parents d'un enfant illégitime, soit porteurs d'une maladie invalidante, soit peu enclins à différencier ce qui leur appartenait de ce qui appartenait à autrui. Je me demandais toutes les fois ce qu'ils pouvaient ressentir, eux, ces pauvres gens, qui auraient à repartir ce soir d'où ils étaient venus. J'étais bien contente de travailler chez moi et de ne pas avoir besoin d'aller me louer, parce que, sans le moindre doute, il n'y aurait personne pour me prendre, ce qui, quand même, était pour moi une pensée amère. La place du marché commençait à se vider promptement, parce que les gens voulaient prendre quelques rafraîchissements avant le combat des taureaux. Mais il me restait quelques jonquilles à vendre, et Gédéon n'aimait pas qu'il y eût quelque chose à ramener à la maison. C'est pourquoi j'attendis, tranquillement assise, en cette paisible après-midi, le regard vers le bas de la rue vide, où les lilas et d'autres arbres étalaient leurs ombres gracieuses et sombres. Je remarquai que Madame Grimble était là aussi. Elle était en train de ranger, et à chaque morceau de beurre qu'elle prenait pour le placer dans le panier, elle jetait un regard de désapprobation parce qu'il n'avait pas été vendu. Quelque temps après, elle vint vers moi. « Vous êtes la sœur du jeune gars que fréquente ma nouvelle femme de laiterie, n'est-ce pas ?»«
Oui. »«
J'espère que c'est sérieux. »«
Oh oui. »«
Parfait. J'aime que mes filles soient un peu sorties avant de venir chez moi, avec un gars qui les attend. » J'ai des fils et c'est plus sûr comme ça. Et du moment que le gars est loin, cela ne nuit pas au travail. Bon, je vais y aller maintenant. Ils vont lâcher le premier chien sur le taureau dans 1 heure. Il me faut une tasse de thé avant. Je peux rien apprécier véritablement ou remarquer quoi que ce soit si je suis affamée. Un mariage, un enterrement, un combat ou même la cérémonie de Pâques. Impossible de me réjouir comme il faut
à moins d'avoir une bonne tasse de bon thé fort dans l'estomac. Bien, bonne journée. C'est très affligeant pour vous. »
Elle retourna à son stand pour réunir ses paniers.
Et voilà encore. On ne me laisserait jamais tranquille. Jamais je ne pourrais oublier mon malheur. J'étais assise là, aussi paisiblement qu'on pouvait l'être, jusqu'à ce qu'elle vînt vers moi pour me dire ce « très affligeant ». Avant cette parole, je n'y pensais pas, et me sentais bien. J'étais sortie de ma prison, jusqu'à ce qu'elle vînt m'y remettre. Comme j'étais contrariée, des larmes me vinrent aux yeux. Et c'est là que je vis soudain, à travers les ombres, et à travers le voile humide qui embrumait mes cils, quelqu'un venir le long de la rue paisible. C'était un homme. Et si ce mot recouvre quelque sens auquel je n'aurais pas pensé, que ceux qui disent l'y ajoutent, contrape ce mot de toute la force, la puissance, la bonté, la patience, la rigueur, l'honnêteté tenace que possède le meilleur des hommes, et qu'on l'applique à celui-ci, car oui, c'était lui, Kester Woodseeves en personne, le maître. Il avançait, sans hâte, comme s'il devait assister à quelque importante affaire. Je vis qu'il était dans ses plus beaux habits, son chapeau en fourrure de castor noir, sa veste verte, un gilet fleuri, et ses bottes Wellington. « Tisserand, Tisserand !» appela Madame Grimble. « Quand viendrez-vous travailler pour moi ?» Il leva la tête et se dirigea vers nous. Et qu'est-ce que je fis, moi, qui savais que son sourire me serait un été? Je me levai avec une telle précipitation que mes jonquilles se renversèrent. Je laissai tous nos paniers et les étoffes qui protégeaient le beurre, les pots à confiture qui servaient de vase aux fleurs, et je m'enfuis, comme si on me poursuivait, et pour aller, je ne savais où, puisque nous étions au bout du marché, dont la seule issue était de l'autre côté, tout devant. Je n'eus d'autre endroit pour me cacher que le bureau du surveillant du marché, et c'était une pièce sombre avec une petite fenêtre sans vitre, ayant vue sur tous les stands. Aussi ne pouvais-je qu'entendre ce qu'il disait. « Tiens, regardez-moi ça !» s'écria Madame Grimble avec le timbre d'une poule qui caquette. « Voilà qu'elle se sauve comme si vous étiez un pestiféré, ou le seigneur lui-même, ou un huissier. Est-elle malade ? Je vois plutôt l'inverse d'habitude. Les filles accourent vers un jeune homme qui arrive, au lieu de s'en éloigner.
Qui est-elle ? Demanda Kester. Il possédait une voix qui sortait de l'ordinaire. C'était comme si, quand il énonçait un mot, le son de sa parole rendait le monde neuf, sans égard pour l'ancien. C'était comme l'ombrage épais d'un arbre en fleurs, par une chaude journée de juin. On pouvait s'y asseoir et s'y reposer. C'était aussi comme la chaleur de l'âtre par une nuit d'hiver, quand le sauvage Edrique courait les forêts, que les rideaux étaient bien fermés, que les bougies étaient toutes éteintes, et que le maître de la maison était rentré.
Qui est-elle? Avait-il dit. Et ce n'était que trois mots et une pensée fugitive. Mais je me sentais une fleur sous le soleil.
Oh, c'est la sœur de Sarne qui vit près de l'étang, Pro-Sarne, la fille au bec de lièvre, une créature bien étrange. Mais ça les rend étranges aux pensées d'être nées comme ça. On dit qu'elle a quelque chose d'une sorcière.
Il ne répondit rien, mais il alla ramasser mes fleurs, les remit dans les pots à confiture, à la façon d'un homme, un peu gauche et maladroite, ce qui nous les rend si touchants. Je pouvais parfaitement le voir depuis la partie arrière et sombre du bureau.
« Sa silhouette svelte est d'une grande élégance, » dit-il.
En un éclair, je compris qu'il savait que j'avais entendu, et il voulait ainsi atténuer ma blessure.
« Oh, le plus gentil des maîtres, l'exemple même de celui qui a tant aimé le monde !»
« Allez-vous voir le combat, monsieur Woodseeves ?» demanda Madame Grimble.
« Oh, oui et non, » répondit-il.
« Quoi ?
Vous le verrez, entendit-il, madame Grimble. Sur cette parole, il poursuivit son chemin. Et que fis-je? Je fis une chose que je n'aurais jamais pensé faire pour aucun homme. Je sortis de la pièce sombre, directement dans la lumière du soleil, et pas après pas, je le suivis sur la route, sans la moindre gêne qu'aurait dû ressentir une jeune fille. Je me tenais à bonne distance, par crainte qu'il ne se retournât et me vît, mais je ne le laissai pas s'éloigner hors de mon champ de vision. C'était comme si je ne le pouvais pas. J'étais attirée par lui, et si, à un détour de chemin, je ne voyais plus son manteau vert, je me sentais désemparée jusqu'à ce qu'il m'apparût de nouveau. L'arène où devait se dérouler le combat se trouvait assez loin de la ville, dans une prairie verdoyante où courait un ruisseau. Si, un autre jour de l'année, vous vous étiez promené là, dans cette prairie verte, pour cueillir des lys ou des myosotis, ou si vous y étiez allé flâner le long de l'eau, les gens auraient jugé cela bien déraisonnable. Mais ce jour-là, ils trouvaient cela très bien et justifié, alors qu'ils y allaient pour tuer une créature. Sur la route, les gens ne me remarquaient pas dans mes habits noirs, le visage caché sous mon bonnet. Après un bon moment, je vis la reine et les couleurs des robes et manteaux lumineux entremêlées aux couleurs plus tristes des manteaux des travailleurs, lesquels ne pouvaient guère s'offrir une meilleure tenue que celle qu'ils avaient eue lors de funérailles dans leur famille. Je vis le taureau, petit et blanc, attaché par une corde au mur de l'arène, laquelle était construite en demi-cercle de pierres brutes et grises. La lumière du soleil enveloppait tout d'un jaune brillant qui faisait penser à des abeilles au milieu de rayons de miel. Et l'air bleu, l'eau brune, la prairie verte étaient d'une telle beauté que je ne pouvais croire que du sang devait couler en pareille journée. Je me demandais quelquefois s'il avait fait un beau temps clair sur le Golgotha quand Marie avait levé les yeux sur la croix. Et si quelques petits oiseaux s'étaient mis à chanter, ou si des abeilles s'étaient affairées dans les trèfles. Oui, je pense que l'atmosphère avait été pure et brillante, car aucune amertume n'avait été épargnée à cette coupe, et assurément, qu'y a-t-il de plus amer que de voir la cruauté de l'homme par quelques belles matinées bénies?